Merci bien. On va continuer ce soir et terminer, en fait, pour le moment, ce qu'on a commencé avec cette question. À quoi sert le christianisme ? On a vu un certain nombre de questions pratiques. L'objectif était de voir en quoi le christianisme peut changer notre manière de vivre, en quoi le christianisme peut nous faire vivre d'une façon différente et apporter une différence dans notre vie. Plusieurs questions pratiques ont été abordées, mais pour terminer, j'ai choisi une question qui est peut-être moins terre à terre, en tout cas en ce qui concerne aujourd'hui, mais qui concerne quand même une réalité importante dans le monde d'aujourd'hui qui est l'avenir. Je rencontre beaucoup de gens qui sont inquiets par rapport à l'avenir, et ça se voit par la façon dont ils en parlent. Alors certains le prennent avec humour, qui cache quand même beaucoup de questions, mais la question de l'avenir, du futur, même proche, se trouve dans l'esprit de beaucoup de gens aujourd'hui. Encore une fois, est-ce que le christianisme a quelque chose à nous dire par rapport à l'avenir? Je crois que oui. Vous avez remarqué que dans certains domaines pratiques de la vie, on n'en a vu que quelques-uns, les Écritures ont beaucoup de choses à nous dire, beaucoup plus que ce qui n'apparaît à premier abord. Et dans ce domaine-là, en ce qui concerne l'avenir, c'est la même chose. La Bible a beaucoup plus à nous apprendre que ce qui n'apparaît au premier abord. Il y a deux questions qui se posent souvent. D'où venons-nous et où allons-nous? Nous n'avons pas regardé dans notre série de cette fois-ci la question d'où venons-nous, la question de la création, de l'évolution, etc. Mais nous allons regarder ce soir, encore une fois superficiellement, parce qu'en une heure et demie, on ne peut pas couvrir tout, vous le comprenez bien. Mais on va regarder cette question de savoir ce que la Bible nous dit sur ce qui est devant nous. Et je crois que c'est important de savoir ce qui nous attend, parce que ça donne de la sécurité, ça donne de l'assurance, et ça nous permet d'envisager ce qui vient avec assurance. Alors, les scénarios sur la fin des temps sont innombrables. Chacun a fait son histoire, chacun a fait son scénario de la fin des temps, et vous en avez à profusion. Alors certains disent qu'un météorite va tomber, un astéroïde va tomber sur la Terre, que ça va produire une catastrophe extraordinaire qui va mettre fin à l'existence des humains sur la Terre. Vous en avez d'autres qui disent « Ah ben c'est l'homme qui va mettre fin à tout ça parce que un jour il y en a un qui dans la panique va appuyer sur le mauvais bouton et paf, ça va déclencher l'explosion qu'il fallait pas ». C'est pas difficile à imaginer ça parce que aujourd'hui on sait qu'on a les moyens de détruire la vie sur la planète. On l'a. Donc ce serait pas quelque chose de totalement inimaginable. D'autres disent on n'aura même pas le temps d'arriver jusque là. La pollution est tellement avancée qu'on va tous partir polluer jusqu'au bout. Et ça non plus c'est pas difficile à imaginer. Quand on pense par exemple, qu'on retrouve des taux de pollution énormes dans des endroits où il n'y a pas de population du tout. C'est dire que ce problème de pollution n'est pas limité aux endroits industrialisés, il est répandu dans tout autour de la planète. Donc ce sont aussi des scénarios. D'autres vont dire, ah mais non, il y a les extraterrestres qui vont venir et qui vont mettre fin à tout ça, qui vont prendre possession de la Terre. Et vous avez là toutes les variantes possibles avec scénarios d'extraterrestres, etc. Vous savez qu'il y a aux États-Unis des grands télescopes qui sont orientés vers l'espace et qui sont à l'écoute de l'espace pour savoir si l'espace a des choses à nous dire. C'est dire à quel point on s'interroge aujourd'hui sur l'avenir, parce qu'il y a, de toute évidence, pour quelqu'un qui réfléchit un tout petit peu, plein de signes dans le monde qui indiquent que nous arrivons à une échéance. Et je le dis souvent, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour croire à la fin du monde. Autrefois, il n'y a que les chrétiens qui en parlaient et qui étaient pris pour des fous, pour des illuminés, pour des pessimistes. Mais aujourd'hui, on prend des scientifiques sérieux, ce sont eux qui ont peur. Ce sont eux qui tirent la sonnette d'alarme. Des Cousteau et plein d'autres J'écoutais il n'y a pas longtemps encore une conférence à Sherbrooke à ce sujet-là, d'un scientifique qui exprimait vraiment son angoisse par rapport aux faits scientifiques qu'il avait lui-même étudiés. Rien de chrétien dans tout cela, rien de biblique dans tout ça. Le monde d'aujourd'hui, le monde scientifique d'aujourd'hui se rend compte qu'il y a une échéance qui approche. Et l'on peut toujours, évidemment, se mettre et se garder la tête dans le sable. Je reconnais que le christianisme n'a pas donné toujours une vision rassurante ou encourageante de l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle, probablement, un certain nombre de chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas très enthousiastes à l'idée d'étudier la question de l'avenir ou la question des prophéties. Cependant, je crois que les prophéties étudiées dans leur ensemble donnent une vision extrêmement forte, extrêmement claire, extrêmement encourageante en ce qui concerne ce qui nous attend. Alors, les scénarios, vous pouvez les développer comme vous voulez. Il y a l'histoire des puces qu'on peut avoir sous la peau ou bien quelque part. Vous avez toutes sortes d'idées qui circulent au gré de l'imagination des uns et des autres. Et alors, évidemment, vous pensez bien que pour moi, la question, je vais chercher une réponse à cette question ailleurs. On peut imaginer, mais je préfère savoir ce que Dieu me dit dans la Bible. Pouvons-nous savoir de quoi sera fait l'avenir? Je crois que oui. C'est pas exactement là que nous allons aller voir. Encore qu'aujourd'hui, des foules de gens vont voir les tireurs de cartes, les médiums, et essayer de savoir ceux qui prétendent connaître l'avenir, voir ceux qui connaissent prétendument l'avenir, pour essayer de se rassurer. Rassurez-vous, j'ai une autre source que cela. Je pense que les Écritures, inspirées de Dieu, peuvent nous donner des indications précises à ce sujet-là. La Bible nous avertit que nous avons tous les moyens nécessaires de connaître ce qui est utile à l'humanité. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 3, il est dit: car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous remarquez, Dieu ne prend pas l'humanité par surprise. Dieu n'est pas un Dieu qui se cache, qui fait ses coups par derrière et qui essaye d'attraper l'humanité en faute et de taper dessus pour régler ses comptes. C'est pas du tout ça. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu va donc choisir parmi ses enfants des gens à qui il va pouvoir confier ces choses pour que tous ceux qui ont confiance en lui puissent en bénéficier. Et nous avons, mes amis, la chance d'avoir dans notre Bible les écrits des prophètes. Ces écrits des prophètes ont traversé le temps, ils ont été criblés par le temps, par aussi les autres prophètes qui ont suivi, et je crois que nous pouvons avoir pleinement confiance dans les prophéties de la parole de Dieu. Une des raisons pour lesquelles je crois que nous pouvons avoir pleinement confiance dans ces prophéties, c'est que, on s'en rendra compte tout à l'heure, la quasi-totalité de ces prophéties se sont accomplies. Alors, si presque tout s'est accompli et qu'il reste encore ça, est-ce que le peu qui reste va tomber à l'eau? J'ai du mal à imaginer qu'après tant de siècles de prophéties accomplies avec tant de rigueur, le peu qui reste ne s'accomplisse pas de la même manière. Dieu ne prend pas les hommes par surprise parce que Dieu veut sauver l'humanité. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas si elle tarde. Attends-la, car elle s'accomplira certainement. Prophète Habacuc nous rappelle que ces prophéties peuvent causer chez nous le doute. Est-ce que vraiment? Si elle tarde, attends-la. Son temps est fixé. Et ce temps-là n'est pas entre les mains des hommes, il est entre les mains de Dieu, et c'est ce qui fait toute la différence, je crois. Jésus, maintenant, avait donné une promesse très claire en ce qui concerne la fin des temps. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, il est dit: « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Cette promesse que Jésus donne de son retour est clairement exprimée dans les évangiles, et si ce n'était pas suffisant, l'Ancien Testament déjà regorge de prophéties qui parlent de la fin des temps. Le livre de l'Apocalypse se termine avec la même promesse. Tout à la fin, Jésus, dans la vision qu'il donne à l'apôtre Jean, dit ceci, « Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. » Nous avons dans les évangiles le récit de la première venue de Jésus, de ce qu'il a fait, pourquoi il est venu. Nous avons aussi les promesses de son prochain retour, et les prophéties, et le Nouveau et l'Ancien Testament nous donnent des indications que nous allons regarder ensemble ce soir. Alors, quels sont les signes du retour de Jésus? J'aimerais, avant de regarder les signes, faire une petite aparté en ce qui concerne le temps. Nous entendons souvent, aujourd'hui, des gens parler en disant « Oh ben, de toute façon, il y a toujours eu des passes difficiles dans l'histoire de l'humanité. » C'est une mauvaise passe, ça va aller mieux, c'est le creux, et puis après on va remonter. Et on a cette idée qui circule, idée d'un temps cyclique, où les choses tournent constamment sur elles-mêmes. On a ça dans les religions païennes, la notion de la roue, par exemple, qui tourne, et qui tourne sur elle-même, où le temps vient, et puis passe, et puis revient. C'est ainsi qu'on a, par exemple, développé l'idée de la réincarnation. C'est la même notion. Dans les religions païennes, le temps est cyclique. Ça tourne. On passe d'un âge à un autre, puis c'est un nouvel âge qui vient, et puis ça tourne, et on tourne vers l'autre, et puis etc. Cette notion cyclique du temps. Et c'est une notion qui permet d'envisager l'infini dans le statu quo. Ça tourne. Et puis, plus ça change, plus c'est la même chose. Cette notion-là, d'un temps cyclique, c'est une notion païenne. Dans les Écritures, nous n'avons pas une notion cyclique du temps, nous avons une notion linéaire du temps. C'est-à-dire qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. On part de quelque part, et on arrive à l'arrivée. Et entre-temps, le temps passe, mais ne revient pas. Il continue, il va vers son terme. Alors évidemment, tous ceux qui ont un problème avec le point de départ, tel que la Bible l'enseigne, vont avoir un problème avec le point d'arrivée nécessairement. Maintenant, si l'on reçoit la notion du point de départ qui est donnée dans les Écritures, on se trouve tout de suite dans une notion biblique du temps linéaire. Et c'est dans cette perspective du temps linéaire que les prophéties bibliques s'inscrivent. Non pas dans un temps cyclique. Ce qui veut dire que les prophéties bibliques, ou la compréhension biblique du temps, nous prend à un certain point et nous conduit vers un accomplissement. Et c'est extrêmement important de le comprendre. Quels sont les signes du retour de Jésus? Alors, il y en a un certain nombre, nous n'allons pas pouvoir les voir tous ce soir, j'aimerais en prendre quelques-uns. Quelques-uns qui peuvent nous aider à comprendre à quel point l'époque dans laquelle nous vivons résonne de tous ces signes des temps pour ceux qui veulent les voir. Dans la deuxième épître de Pierre, nous sommes ici avertis d'une situation que nous retrouvons dans le contexte d'aujourd'hui. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leurs propres convoitises. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ? » Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Nous sommes avertis dans les Écritures que dans les derniers temps, il y aura des gens qui vont dire, écoutez, ça fait 20 siècles qu'on parle du retour de Jésus, racontez ça à vos petits-enfants pour les endormir si vous voulez le soir, mais ne me racontez pas moi ça, qui suis un homme de science, qui vit dans un temps scientifique, etc. Beaucoup de gens se moquent de cette notion parce que ça leur paraît totalement enfantin et désuet. On est averti qu'à la fin des temps, ce sera la mentalité. Et ce n'est pas étonnant parce que on retrouve la même chose dans l'histoire biblique à l'époque de Noé. Et Jésus, en parlant des signes des temps, va reprendre l'analogie avec l'époque de Noé. l'époque de Noé. Noé va faire quelque chose qui paraît complètement stupide et fou pour sa génération, construire un bateau dans un monde où il n'est jamais tombé une goutte d'eau. En plein champ, il va construire son bateau, lui. Et il va construire son bateau pendant 120 ans, et pendant 120 ans, les gens vont se rouler de rire par terre devant la bêtise de ce fou qui se construit un zoo en plein champ avec un bateau. Pendant 120 ans, ils ont rigolé. Jusqu'au jour, nous dit le texte, où Noé entra dans l'arche, la porte fut fermée, puis le déluge les emporta tous. Je pense que tout d'un coup, ils ont arrêté de rigoler. J'imagine qu'au dernier moment, ils disent « Oh, c'était pour rire, tu sais, oh, c'était pour s'amuser, c'était pas du vrai. » Mais le monde d'aujourd'hui est dans la même situation. On se croit beaucoup plus malin, et pourtant les Écritures sont là. Nous sommes donc avertis de ces choses. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, il nous est dit ceci. « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christs, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible même, les élus. » Dans Matthieu 24, nous avons là tout un chapitre qui est consacré au signe des temps. Le chapitre 25 qui suit est aussi consacré à ça, nous en parlerons tout à l'heure. Jésus est avec ses disciples, et les disciples entendent Jésus annoncer que le temple de Jérusalem sera détruit. Pour eux, dans leur esprit, le jour où le temple de Jérusalem est détruit, ça ne peut pas être autre chose que la fin du monde. Ils ne peuvent pas imaginer qu'un jour le temple du Dieu vivant puisse être détruit à Jérusalem. Alors, il est bien évident que Jésus, là, ne peut pas leur expliquer tout le flot de l'avenir. En fait, en l'an 70, les Romains vont détruire ce temple. Mais Jésus va prendre cette destruction de Jérusalem et du temple comme un type, c'est-à-dire une situation réduite de ce qui va se passer à la fin des temps, à la grande échelle mondiale. Et dans ce chapitre, Jésus va donner les signes qui vont en même temps couvrir le moment qui va annoncer la chute de Jérusalem et aussi ces moments qui vont annoncer la fin des temps. Les deux se superposent. Et dans ce chapitre, Jésus va donner les signes en particulier qui s'adressent à la période que nous vivons. Les faux dieux et les faux Christs. Vous en avez autant que vous voulez. Vous avez de partout des gens qui se proclament des dieux ou qui se proclament des Christs ou qui se proclament des prophètes et qui drainent derrière eux une foule de gens et que l'on est surpris de voir parce qu'il y a une crédulité extraordinaire chez tous ceux qui suivent ces gourous de toutes sortes et de toutes espèces qui sont prêts à leur donner tout leur avoir, à vivre dans l'immoralité s'il le faut, pour satisfaire ces gourous-là. Vous avez aujourd'hui une quantité incroyable de gens qui ont ces prétentions-là. Et cette prophétie de Jésus, je crois, tombe à pic aujourd'hui, par rapport à une foule de gens qui prétendent avoir des pouvoirs surhumains, ou des gens qui se prétendent être Dieu lui-même, ou des envoyés de Dieu, ou des prophètes de Dieu. Dans le même chapitre, Jésus dit ceci, « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Alors, dans ce chapitre, Jésus présente un certain nombre de signes pour lesquels beaucoup de gens ont manifesté des objections en disant, « Mais enfin, des guerres, toujours eu des guerres, des famines aussi, des tremblements de terre, c'est pas nouveau. Alors en quoi est-ce que ça représente des signes de la fin des temps, puisqu'il y en a toujours eu ? Alors la différence, c'est qu'en réalité, ces phénomènes-là ne sont plus, à la fin des temps, des phénomènes limités. On a toujours eu des guerres, il y a toujours eu deux rois qui ne s'entendaient pas, qui se disputaient dans un coin du monde ou dans un autre. Mais ces guerres n'affectaient pas nécessairement toute la planète d'un seul coup. Même chose pour les autres phénomènes que Jésus mentionne ici. On est en train de parler ici de phénomènes non plus isolés, mais de phénomènes qui couvrent la planète entière. D'ailleurs, nous vivons dans un monde où les expressions qui sont employées sont très symptomatiques. Le monde parle d'un monde comme un gros village. Le monde n'est plus immense. Ce qui se passe à un bout du monde affecte le monde entier en quelques heures. Et dans le domaine économique, c'est la même chose. S'il y a une bourse qui s'effondre à un côté du monde, le monde entier tremble parce qu'il va y avoir des répercussions partout. C'est vrai dans le domaine économique, c'est vrai dans le domaine social, c'est vrai dans les différents signes que Jésus a manifestés, qui ne seront plus à la fin des temps des signes locaux, mais qui seront cette fois-ci des signes qui vont se manifester à l'échelle de la planète entière. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Et c'est vrai qu'on peut se lamenter sur ces signes, mais Jésus les a donnés pour nous aider à discerner les temps dans lesquels nous vivons. Quand on parle de guerre et de bruit de guerre, il suffit de penser par exemple au siècle que nous venons de quitter, le 20e, qui a commencé dans une vision d'apothéose, mais qui est le seul siècle qui ait connu deux guerres mondiales, avec un nombre incalculable de pertes humaines. Deux guerres mondiales. Dans un siècle qui avait commencé en disant, voilà, maintenant l'humanité va apprendre à s'aimer, on a des grands projets pour l'humanité. Deux guerres mondiales, issues de pays fondamentalement chrétiens, soi-disant. Sean Boonstra, dans une série de conférences qu'il avait fait l'année passée, avait donné ces chiffres que j'ai trouvés intéressants. En 2003, on a enregistré 175 attaques terroristes dans le monde, et l'année suivante, on est passé de 175 à 655. Il faudra que je demande à Sean Boonstra où il a trouvé les chiffres pour l'année 2005. Ça pourrait être intéressant de savoir. On a une escalade de la violence, de l'atmosphère de guerre et de conflit, et pas seulement entre des nations ou des peuples, mais à l'intérieur même des peuples, on se rend compte que les tensions sociales sont de plus en plus fortes et constantes. Encore une fois, dans Matthieu 24, un signe particulièrement interpellant est donné au verset 14. Il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Vous remarquez ici une chose, c'est que cette bonne nouvelle, que l'on appelle l'évangile, c'est le sens de ce mot-là, évangile veut dire bonne nouvelle, du royaume de Dieu, est appelée à être prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à qui? Aux pays chrétiens seulement? Non, à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, je voudrais avancer sur la pointe des pieds, mais je voudrais qu'on comprenne clairement ce que la Bible est en train de nous dire ici. Il y a dans le monde une grande diversité de religions et de croyances. Et je le respecte hautement. Cependant, j'apprends une chose. C'est que seul le Dieu du christianisme est un Dieu vivant. Il faudra donc que d'une manière ou d'une autre, le monde prenne conscience de la réalité de la parole de Dieu avant que le monde se termine. Parce que toutes les religions qui sont dans le monde ne vont pas nécessairement permettre à ceux qui y ont adhéré d'être sauvés. C'est la raison pour laquelle Dieu dit clairement que le témoignage de cette bonne nouvelle du salut par Jésus doit atteindre tous les coins du monde. Cela peut vous paraître assez restrictif ou peut-être même intolérant, mais nous vivons dans un monde où une certaine valeur est extrêmement appréciée qui s'appelle le pluralisme, qui consiste à dire tout est vrai, tout est faux, ça dépend si ça te convient ou si ça ne te convient pas. Et on rejette cette idée d'une vérité et d'une erreur. La parole de Dieu nous dit que nous serons transformés et sanctifiés par la vérité, pas par l'erreur. Par conséquent, en suivant ce que la Bible nous dit, ce que Jésus lui-même a annoncé comme signe de son prochain retour, je crois que le monde entier devra être confronté à la réalité du Christ avant que l'histoire de l'humanité puisse se terminer. et que l'humanité entière sera confrontée au choix, Christ ou pas Christ. Et bien entendu, ce choix-là, entendez-le bien, je le conçois comme étant le choix par rapport au véritable christianisme, c'est-à-dire au christianisme des Écritures. Pas un christianisme de tradition ou d'habitude, ou que l'on a fabriqué au gré du temps, mais celui que Dieu a donné à ses prophètes dans les Écritures. Il faudra donc que cette bonne nouvelle de l'Évangile, du salut par la foi en Jésus, touche l'humanité entière. C'est dire qu'il n'y aura pas, en fait, plusieurs solutions. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, Jean, dans sa vision, voit trois anges. Trois anges qui annoncent au monde ce qu'il appelle l'Évangile éternel. C'est une sorte de dernier appel, d'un dernier appel lancé à l'humanité avant la fin. Lorsque ces trois anges ont accompli leur travail, lorsque ces trois anges répandent dans le monde entier, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, précise le texte, la bonne nouvelle de l'Évangile éternel, lorsque ce travail est fait, voici ce qui arrive. C'est le texte qui vient juste après. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Le texte qui fait suite immédiatement à la proclamation ultime de l'Évangile éternel dans le monde, c'est une description du retour de Jésus. Il va donc y avoir, je crois, dans le monde, juste avant le retour de Jésus, une dernière proclamation claire et nette des vérités bibliques que Dieu a révélées, pour permettre à l'humanité de faire son choix. Et je crois que cette bonne nouvelle de l'Évangile aujourd'hui est effectivement prêchée dans le monde entier. Elle n'est pas prêchée simplement par transmission orale directe, mais nous avons aujourd'hui des moyens techniques de télévision, de radio, qui permettent d'annoncer l'Évangile à des gens qui sont dans des situations parfois inaccessibles, ou quasiment. Je crois que cette proclamation se fait actuellement dans le monde. Et je crois par conséquent que cette proclamation de l'Évangile biblique qui fait le tour du monde est aussi un de ces signes du retour prochain de Jésus. Maintenant, que nous dit la Bible sur la manière, sur le comment du retour de Jésus? Comment Jésus va-t-il revenir? Beaucoup de scénarios encore là-dessus courent dans le monde chrétien d'aujourd'hui, et des scénarios qui ne sont pas tous réconciliables les uns avec les autres. Alors, que nous disent les Écritures là-dessus? Premièrement, le retour de Jésus est un retour personnel. À peine était-il parti pour remonter au ciel que des anges s'adressent aux disciples dans le livre des Actes au chapitre 1er pour leur dire « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Jésus était avec ses disciples. Et le texte nous dit qu'alors qu'ils étaient en train de converser ensemble, Jésus s'est élevé, il était enveloppé dans les nuages, il est remonté au ciel. Les anges viennent lui dire, Jésus va revenir de la même manière. Ce ne sera pas un autre, ce sera lui, j'allais dire en chair et en os, qui vient et qui revient une seconde fois selon sa promesse. Non, tout d'abord, son retour est personnel. Ce n'est pas un retour spirituel, spiritualisé. Ce n'est pas un retour en cachette non plus, on va en reparler dans un moment. Ce n'est pas un retour mystique dans le cœur des uns ou dans le cœur des autres. Non, la Bible est claire, Jésus revient sur la terre pour tout le monde. C'est un retour personnel. Ce n'est pas un retour dans l'esprit ou dans la spiritualité de certains. Deuxièmement, son retour est littéral. L'Apocalypse nous dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est dire que le retour de Jésus n'est pas pour quelques-uns seulement, il est pour tous. Et pas seulement ceux que Jésus vient chercher, il est aussi pour ceux qui sont perdus. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc, le retour de Jésus, il est personnel et il est littéral. Ce n'est pas un événement spirituel ou imaginaire ou mystique. Troisièmement, son retour est universel. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Tout le monde pourra le voir. Jésus revient pour l'humanité entière. Numéro 4, son retour est glorieux. Dans le même chapitre, Matthieu 24, il est dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. » Vous vous rendez compte en lisant ce texte-là que le retour de Jésus n'est pas pour une catégorie de gens d'élite particulière. C'est pour l'humanité entière. Jésus revient en plus avec puissance et une grande gloire. Je crois que nous sommes incapables d'imaginer ce que peut faire la gloire et la puissance de Dieu quand ça se manifeste. Entièrement. On est en train là de parler de la dernière page de l'histoire. Dieu va se manifester à cette humanité qu'il a rejetée en grande partie au travers des siècles, avec toute sa gloire. Et le texte qui mentionnait tout à l'heure que lorsque Jésus reviendra, même ceux qui l'ont percé seront là pour le voir. Ceux qui se sont moqués de lui et qui l'ont pris pour un brigand, qui l'ont humilié le plus profondément possible, ont besoin de le voir dans sa gloire tel qu'il est vraiment. Et ils pourront le voir pour se rendre compte de la gravité incalculable de ce qu'ils ont infligé au Christ lorsqu'il était sur la terre. Ainsi, lorsque Dieu se manifestera avec toute sa puissance et toute sa gloire, ce sera une page inédite de l'histoire de l'univers. Nous ne pouvons pas imaginer ce que c'est. Or, les hommes peuvent créer des bombes atomiques, peuvent créer des bombes extraordinaires. Et ça fait des gros feux d'artifice, je suis d'accord. Mais lorsque Dieu va revenir avec ses milliards d'anges, avec sa puissance, la puissance non pas humaine, mais la puissance divine, je crois que nous ne pouvons pas imaginer ce que ça représente. Je veux dire par là que si vous n'avez pas mis votre réveil ce jour-là, vous ne risquez pas de dormir à travers le retour de Jésus. Numéro 5, personne ne connaît la date de son retour. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors ici, pas de petit calcul pour savoir quand Jésus revient. Cette erreur a été faite de nombreuses fois dans l'histoire de la chrétienté. La Bible est claire. Autant elle nous a donné des indications précises sur la première venue de Jésus, que les prophéties nous permettaient de calculer avec précision, autant pour la deuxième venue, il n'y a pas de prophétie chiffrée. Nous ne pouvons pas calculer la date du retour de Jésus. Par contre, Jésus a donné des signes qui nous permettent de discerner les temps, d'utiliser notre intelligence et notre conception, notre compréhension des Écritures pour savoir les temps dans lesquels nous vivons. Dieu veut que nous utilisions cette intelligence et ce bon sens biblique pour discerner les temps dans lesquels nous vivons. Pas de date. Et malgré ça, vous avez tout le temps des gens, même encore aujourd'hui, qui partent dans des spéculations sur les dates et sur le moment et sur le quand et sur le quoi. Le texte est clair. Nul ne connaît le jour et l'heure. Maintenant, la question se pose dans le christianisme d'aujourd'hui, à savoir s'il va y avoir un enlèvement secret. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui parlent du retour de Jésus, de la fin des temps, acquiescent lorsqu'on parle de ces choses, mais sont absolument convaincus qu'il va y avoir un enlèvement secret, un moment où les sauvés vont tout d'un coup disparaître et laisser les autres là. Ça a en tout cas permis de vendre un nombre incalculable de livres et de promouvoir des films sur ce thème-là à l'infini. Et je suis extrêmement troublé de voir comment les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'on leur pose des questions sur leur croyance, sur leur foi, sont capables de vous dire qu'ils croient cela parce qu'ils l'ont lu dans un livre, ils l'ont vu dans un film. Mais ils ne sont pas capables de dire qu'ils ont basé leur croyance sur les Écritures. Je trouve ça assez difficile de la part de chrétiens de justifier leur croyance pour un événement si crucial et important que le retour de Jésus en se basant sur un film qui a été fait. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir un enlèvement secret? Alors, encore une fois, regardons les Écritures. Cette idée de l'enlèvement secret est basée sur deux versets du chapitre 24 de Matthieu, qui sont maintenant sous vos yeux. « Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Quand on lit ces deux textes tout seul, on se dit « Ah ah !» Ça veut dire qu'il y en a tout d'un coup qui vont disparaître parce qu'ils sont sauvés. Si on lit ces deux textes tout seul, hors de leur contexte, on pourrait avoir cette idée-là. Mais je vous propose de remettre ces deux versets dans leur contexte. C'est-à-dire dans le contexte du chapitre 24 et 25 de Matthieu, où Jésus fait un grand discours, où il va présenter ce sujet qui concerne la fin des temps. Ce discours est en fait en deux grandes parties. Une partie dans laquelle il va donner les signes des temps, on en a vu quelques-uns. Et la deuxième partie de son discours, ce sont des images, des paraboles, qui sont en fait destinés à interpeller ses auditeurs, à dire maintenant que vous connaissez les signes, veillez, soyez prêts. Alors regardons le contexte. Du verset 1 au verset 31 se trouvent les fameux signes que Jésus développe comme étant les signes des temps, nous en avons vu quelques-uns tout à l'heure. Du verset 32 au verset 35, Jésus va parler de la parabole du figuier. Il va dire quand vous voyez les feuilles qui viennent, quand vous voyez l'arbre qui reprend vie, vous savez que le printemps est proche. Et de la même manière, quand vous verrez les signes, comprenez ce que ça veut dire. Il va donner une autre image, il va reprendre la situation du temps de Noé, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, en disant, vous savez, du temps de Noé, rien dans l'esprit de ceux qui étaient perdus n'annonçait cette fin-là. Tout continuait comme si de rien n'était, les gens se mariaient leurs enfants, mangeaient, faisaient leur business comme d'habitude, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. C'était fini. À la fin des temps, il en sera de même. Il y aura cette notion, dans un sens, pour beaucoup de gens, de surprise, parce que le monde va continuer à fonctionner apparemment comme d'habitude. On pourra continuer à vivre, à manger, à se déplacer, à aller ici et là. C'est une manière pour Jésus de dire que les événements relatifs au retour de Jésus sont des événements qui vont se dérouler dans une succession très rapide. Il ne faut pas s'attendre à ce que cette dégradation soit étendue sur une longue période de temps. Nous voyons la dégradation dans le monde aujourd'hui, c'est évident. Mais on peut quand même fonctionner, même si le prix de l'essence monte et crève les plafonds, on arrive quand même à faire le plein. Mais Jésus dit, voilà, au temps de Noé, tout a fonctionné. Ils étaient avertis. Pendant 120 ans, ils ont été avertis. Mais ils n'arrivaient pas à réconcilier cet avertissement avec le quotidien qui fonctionnait fort bien. Scientifiquement, il n'était jamais tombé une goutte d'eau avant le déluge. Et Noé est en train de leur parler d'un déluge qui tombe du ciel. Et scientifiquement, ça ne tient pas la route. Et on a cet argument. Aujourd'hui, la science va nous expliquer tout ça. Maintenant, les chrétiens, s'ils croient des autres affaires, c'est des farfelus. Jésus dit, c'est la même situation à la fin. Dans les versets suivants, Jésus continue, et ce sont les versets que nous avons vus tout à l'heure, 40 et 42, où Jésus dit, n'imaginez pas que vous allez être sauvés en groupe. Le salut est individuel. Un sera pris, l'autre laissé. Je ne vais pas être sauvé parce que j'ai passé ma vie à côté de quelqu'un qui est un vrai croyant et qui est attaché à Dieu. Je ne vais pas être sauvé à cause de mon conjoint, je ne vais pas être sauvé à cause de mon pasteur, je ne vais pas être sauvé à cause de l'église où mon nom est inscrit. Je vais être sauvé à cause de ma relation personnelle avec le Christ qui revient. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit, deux personnes qui seront ensemble ne vont pas être sauvées parce qu'elles étaient ensemble. L'une sera sauvée, mais l'autre perdue, parce qu'elle a rejeté le salut en Jésus-Christ. Et on a fait de ces deux versets la base, la seule, pour dire, il y aura un enlèvement secret. On va reparler de l'enlèvement secret, vous allez voir quelques textes qui nous permettent difficilement d'imaginer que Jésus va revenir en secret. Ensuite, il parle de la parabole du voleur. Et il dit, attention, si le maître de la maison sait à quelle heure le voleur va venir, il ne va pas aller se coucher puis le laisser faire, il va l'attendre. Mais faites la même chose. Puisque vous ne savez pas veiller. Jésus continue ses paraboles, il prend la parabole des serviteurs. Et il dit, voilà, il y a des serviteurs qui attendent le retour de Jésus, mais Jésus ne revient pas aussi vite qu'ils pensaient. Et ils disent, mon maître tarde à venir. Et ceux qui disent, mon maître tarde à venir, commencent à persécuter les autres serviteurs, à leur faire du mal. Parce qu'ils disent, bon, de toute façon, ça fait tellement longtemps qu'on annonce le retour de Jésus, il n'est toujours pas là, oublie ça. Autrement dit, ces serviteurs-là, entendez par là des chrétiens engagés, au lieu d'avoir leur esprit tourné vers les réalités du retour de Jésus, s'installent maintenant sur la terre comme si c'était là qu'il faut rester toujours. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Mentalité de ces serviteurs qui commencent à faire du tort aux vrais serviteurs de Dieu. Une autre parabole, la parabole des dix vierges, qui est bien connue, qui rapporte cette idée que 10 demoiselles d'honneur préparent le mariage et toutes s'endorment. Quand tout d'un coup, au milieu de la nuit, on annonce que l'époux arrive avec la mariée, elles se réveillent, mais 5 d'entre elles ont une réserve d'huile. Entendez par là, de l'Esprit Saint. Parce que dans les Écritures, l'huile est un symbole de l'action du Saint-Esprit en nous. 5 n'en ont pas. Et Jésus montre, on ne va pas pouvoir discerner à la fin des temps si celui-là est perdu, si celui-là est sauvé. C'est Dieu qui, voyant dans le cœur, sait si celui-là a laissé l'Esprit Saint faire l'œuvre de transformation intérieure ou s'il est resté comme il était avant. Versets 14 à 30, Jésus prend la parabole des talents et dit, n'oubliez pas que le retour de Jésus, c'est un moment où nous devons rendre des comptes. Dieu nous a donné du temps, de l'argent, des moyens, des capacités, de toutes sortes. Un jour, il faudra rendre compte à Dieu de ce qu'il nous a confié. C'est aussi ce moment-là. Versets 31 à 46, parabole des brebis et des boucs, où Jésus dit, voilà, la fin des temps. Ce n'est pas le moment où on va dire, « Oh, ben le bon Dieu, il va sauver tout le monde après tout, il est tellement bon. » Ce n'est pas possible que ce bon Dieu-là, il puisse laisser des gens se perdre. Jésus est clair, il va dire, « Voilà, Dieu va venir. » Le maître va séparer les brebis et les boucs. Il y aura des perdus, il y aura des sauvés. Dans tout ce contexte qui illustre différents aspects relatifs au retour de Jésus, se trouve le texte que nous avons mentionné tout à l'heure, où l'un est pris, l'autre laissé, mais vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de secret à tout ça. Regardez d'ailleurs les autres textes. Par exemple, Matthieu, le même chapitre, versets 30 et 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées des cieux avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité de la terre à l'autre. Maintenant, si vous arrivez à me faire un retour de Jésus discret et secret avec ça, vous êtes fort. Parce que si Dieu manifeste toute sa puissance et toute sa gloire, que les anges arrivent et qu'ils ont des trompettes, je ne sais pas comment faites, mais tout le monde l'entendra, comment est-ce que vous faites un enlèvement secret avec ça? Difficile. Remarquez une chose. Le texte ici nous dit quelque chose qui, à mon avis, est dramatique. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. En d'autres termes, on apprend que le retour de Jésus n'est pas une bonne nouvelle pour la vaste majorité des habitants de la terre. Et ça, c'est une réalité dramatique. Beaucoup de gens auront vécu leur vie en mettant le Christ de côté parce que finalement, il est plus gênant qu'autre chose. Ce qui fait que Jésus revenant va se retrouver dans une situation qu'il avait déjà prévue en disant « Est-ce que le Fils de l'homme trouvera la foi sur la terre lorsqu'il reviendra ?» J'apprends ici que la vaste majorité de la population de la terre ne va pas trouver que le retour de Jésus est une bonne nouvelle. Ceux qui trouveront que le retour de Jésus est une bonne nouvelle seront une minorité. Toutes les tribus de la terre vont se lamenter en voyant le Christ revenir. Ce sera en réalité la proclamation évidente de leur échec total. Ce sera aussi la proclamation évidente que tout ce à quoi ils auront cru est faux et qu'ils le savaient et qu'ils n'ont pas voulu l'admettre. Je suis touché de voir que le Christ qui a donné sa vie pour que tous les hommes puissent être sauvés, tous les humains, lorsqu'il reviendra pour donner justement cette vie éternelle qu'il est venu payer de sa vie lors de sa première venue, ne sera pas mieux accueilli la deuxième fois que la première. On s'étonne, on se scandalise quand on lit les évangiles, lorsqu'on lit le récit de la venue de Jésus, qui doit naître dans une étable parce que les hommes ne veulent même pas recevoir le Messie parmi eux. On se scandalise en voyant à quel point Jésus est traité même dans son enfance et durant sa vie. Mais je ne crois pas, mes amis, que la génération qui recevra Jésus la deuxième fois le recevra mieux que la première. La Bible nous en parle. Et je me sens interpellé par cela parce que je me dis, est-ce que la perspective du retour de Jésus est pour moi maintenant une bonne nouvelle, quelque chose que je me réjouis de voir, ou est-ce que c'est quelque chose qui me fait peur, qui m'inquiète, qui me tourmente, pour laquelle je serais prêt à prier, « Seigneur, attends encore un petit peu s'il te plaît, j'ai pas envie de te voir tout de suite. » Se poser la question peut-être nous aider à y répondre. Un autre texte de l'épître de Pierre rend impossible cette idée de l'enlèvement secret. Regardez ceci. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Ce texte est intéressant parce qu'il joint les deux idées, l'idée du voleur qui vient par surprise. Mais écoutez, les éléments embrasés qui se dissolvent, la terre et ses œuvres qui est consumée, c'est pas très discret ça. Enlèvement secret? Non, je ne trouve pas ça dans les Écritures. Pour autant que l'on soit honnête avec le texte et qu'on ne sorte pas le texte de son contexte, mais qu'on prenne l'enseignement de Jésus dans sa globalité. Pas de retour secret ni d'enlèvement secret. Jésus est venu la première fois pour mourir sur la croix. Peu de gens l'ont accepté de son vivant. Jésus va-t-il revenir discrètement une deuxième fois en catimini pour ne pas se faire voir parce qu'il a honte de ce qu'il a montré? Il est le maître de l'univers, il est le créateur, il est celui qui a donné sa vie pour sauver l'humanité et il reviendrait discrètement pour ne pas dire à tout le monde ce qu'il fait? C'est incohérent avec le reste des Écritures. Quand Jésus revient, il revient avec puissance et une grande gloire. Maintenant, que se passe-t-il lorsque Jésus revient? Est-ce que nous savons comment les choses vont se passer? Le texte est encore très clair, nous le savons par les Écritures. Dans l'Apocalypse, il nous est dit ceci. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. La venue de Jésus va donc s'accompagner de cataclysmes énormes. Et ce texte ici de l'Apocalypse va dans le même sens de ce que je disais tout à l'heure. Les phénomènes que l'on a à la fin des temps ne sont pas des phénomènes locaux, comme ça a été le cas pendant des millénaires, mais ce sont des choses qui prennent une envergure qui n'a jamais encore existé dans l'histoire de l'humanité. C'est ainsi que l'Apocalypse nous présente les choses. Apocalypse chapitre 6 dit ceci, « Il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles tombèrent sur la terre. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » Ça n'a rien de discret, vous remarquez. Ce sont des cataclysmes de grande envergure, dans lesquels la terre elle-même est secouée et vit ses derniers moments. Et je crois que les catastrophes naturelles que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui sont avant-coureurs de ces choses-là. Tout le monde reconnaît que la terre aujourd'hui vit, du point de vue des phénomènes naturels, une époque et des situations qu'on n'a jamais vues dans le passé. Ce sont des signes avant-coureurs de ces catastrophes d'envergure qui accompagneront le retour de Jésus. Dans le texte, dans l'Ancien Testament, Ésaïe reprend la même idée. « Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses vêtements périront comme des mouches. Ses habitants, pardon, périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura pas de fin. » On n'est pas en train de vivre l'extermination de la terre et l'achèvement d'une histoire. On est en train de vivre les dernières convulsions d'un monde que Dieu veut achever pour pouvoir établir sa justice et son amour une fois pour toutes. Et dans ce sens-là, mes amis, moi j'attends ça avec impatience. Ça ne me gêne pas que le monde dans lequel nous vivons soit détruit avec le mal qu'il contient. Il n'y a que ceux qui ne souffrent pas, qui ne se réjouissent pas du retour de Jésus. Numéro 2, les humains voient Jésus en personne revenir du ciel avec les anges. Ce texte d'Apocalypse, très clair, qui commence dans le premier chapitre de ce livre, il dit « Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. » Numéro 3, les morts sauvés ressuscitent. L'Apocalypse encore nous renseigne à ce sujet et dit « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » Vous remarquez ici qu'il est question de la seconde mort. Ça veut dire qu'il y en a une première. La première mort est présentée dans la Bible comme étant un sommeil. C'est cette mort que nous connaissons et dont nous voyons frapper ceux qui nous entourent. Mais lorsque Jésus revient et établit la justice, il y a au bout du compte ce que la Bible appelle la deuxième mort, qui n'est pas présentée comme un sommeil cette fois-ci, mais qui est présentée comme la destruction du mal et des méchants et du diable et de toutes ses conséquences. Par contre, lorsque Jésus revient, ceux qui sont sauvés ressuscitent. Ils participent ici à la première résurrection. C'est la raison pour laquelle la Bible parle de la première mort comme d'un sommeil. Parce que quand on parle d'un sommeil, on sous-entend qu'on va se réveiller. Quand on va se coucher le soir, on ne se couche pas avec angoisse en se demandant « Mais si par hasard je ne me réveillais pas demain matin ?» Pour nous, c'est évident. C'est la même idée dans cette notion de mort, un sommeil. C'est parce que Jésus a annoncé qu'à son retour, il ressusciterait tous ceux qui, étant morts, sont sauvés en son nom. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Une priorité est ici donnée à ceux qui sont dans la mort et qui attendent le retour de Jésus. C'est quelque chose dont nous pourrons parler dans une autre occasion, mais le retour de Jésus est directement associé à la résurrection. Mes amis, s'il n'y avait pas de résurrection, quel espoir est-ce que nous avons lorsque nous amenons nos bien-aimés au cimetière? Le retour de Jésus, c'est le moment qui va rassembler toutes ces espérances-là. Numéro 4, les sauvés vivants sont transformés. 1 Corinthiens 15 dit ceci, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Vous remarquez, ce passage rassemble les deux éléments. Il parle d'abord de ceux qui ressuscitent, dont on vient de parler juste maintenant. Ils ressuscitent incorruptibles. Ils vont ressusciter avec un corps différent de celui avec lequel, dans lequel ils sont morts. Et heureusement, je n'ai pas envie de vivre l'éternité avec les handicaps que j'ai maintenant. Vous vous rendez compte, si j'étais pendant l'éternité aussi laid que je suis encore maintenant? Les morts ressuscitent incorruptibles. Maintenant, ceux qui sont vivants, qu'est-ce qui leur arrive? Le texte nous dit, ils ne vont pas passer par la mort, ceux-là, mais ils vont être changés pour être en réalité comme ceux qui ont ressuscité. Incorruptibles, et ils vont revêtir l'immortalité. Ça, c'est intéressant. Le mal, le péché, ses conséquences n'ont plus d'impact ici. Numéro 5. Tous les sauvés, qu'ils soient ressuscités ou transformés, devenus immortels, vont à la rencontre de Jésus. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Remarquez bien une chose ici. Nous entendons souvent de la bouche de chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'ils parlent du retour de Jésus, que Jésus va revenir sur la terre, installer un âge d'or sur la terre. La Bible ne me dit pas ça. Remarquez le texte, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il revient, pardon, la deuxième fois, ne revient pas sur la terre. Il vient prendre avec lui ceux qui sont sauvés. C'est très différent. Qu'advient-il à ce moment-là de ceux qui sont vivants mais qui sont perdus? Le texte nous le dit. Alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Ceux qui vivent au moment du retour de Jésus ne sont pas sauvés, ne peuvent pas supporter la gloire d'un Dieu saint. Seuls ceux qui sont sauvés et qui revêtent justement l'immortalité, l'incorruptibilité, la pureté dont on parlait tout à l'heure, pourront supporter la gloire du retour du Christ. Les autres qui sont pécheurs sont détruits par la pureté même et la gloire de Dieu. Numéro 7. Les sauvés montent au ciel avec Jésus. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Encore une fois, Jésus précise dans l'évangile de Jean, chapitre 14, qu'il ne va pas revenir sur la terre tout de suite. Il va d'abord venir chercher ceux qui sont sauvés et les emmener au ciel. Le programme n'est pas terminé. Encore une fois, Nous n'allons pas pouvoir ce soir regarder tous les aspects de ce programme-là. Nous pourrons le regarder avec vous si vous le souhaitez après. Mais remarquez ici cette idée. Jésus ne vient pas installer un âge d'or où tout le monde est bon, tout est gentil, tout va bien sur la terre une fois que Jésus arrive. Non, il vient chercher ceux qui sont sauvés. Pourquoi Jésus revient-il? À quoi est-ce que ça sert? Alors, depuis que nous avons commencé nos rencontres, on s'est posé la question, à quoi sert le christianisme? Et j'ai essayé de vous montrer que le christianisme biblique a de nombreuses implications dans notre vie chrétienne pratique. La Bible parle aujourd'hui sur toutes sortes de sujets. Dieu nous donne le mode d'emploi d'une vie équilibrée. Et on s'est rendu compte, très partiellement, pour les quelques sujets qu'on a pu voir, que si nous suivions le mode d'emploi biblique, on pourrait s'épargner un nombre incalculable de souffrances et de peines. Ça, c'est notre vie, pour le moment. Mais à quoi sert le christianisme si le christianisme ne nous aide pas non seulement à vivre une vie où les problèmes et les difficultés sont limités ici-bas, mais où le mal que l'on rencontre constamment est enfin éliminé? Est-ce que le christianisme, c'est simplement une recette pour être heureux pendant quelques années ici? Pour moi, c'est insuffisant. Si le christianisme est simplement quelque chose qui me permet de vivre un peu mieux et un petit peu plus longtemps dans un monde de misère comme le nôtre, le christianisme n'est pas exactement la réponse à ma question. Le christianisme biblique, offre beaucoup plus que cela. Parce que la promesse que Jésus a faite, ce n'est pas simplement de nous donner une vie épanouie ici, c'est de nous donner la vie éternelle, c'est autre chose, c'est-à-dire de nous rendre ce qu'il avait prévu de donner à l'humanité au départ et que nous avons perdu. Mes amis, je ne voudrais pas que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui s'éternise. Je ne voudrais pas que le christianisme me donne la possibilité de vivre pendant 1000 ans au lieu de 80 ou 90. Ça ne fait pas mon affaire. Parce que je ne veux pas simplement vivre plus longtemps dans un monde de misère comme celui dans lequel nous vivons. Ça ne m'intéresse pas. Je veux autre chose. Nous sommes faits par le Créateur pour vivre éternellement. Nous ne sommes pas faits pour souffrir éternellement. Et dans ce sens-là, le christianisme a non seulement à nous offrir une vie ici, dans les meilleures conditions possibles, le christianisme a aussi à nous offrir ce que Dieu avait dans son plan originel, une vie éternelle. Et j'attends avec impatience que le monde dans lequel nous vivons, avec le mal, avec les injustices, avec les violences, avec tout ce que nous savons de tordu et de pervers, soit enfin terminé et détruit. Je n'ai pas envie qu'il dure plus longtemps. Pourquoi Jésus revient-il? Il vient pour donner la vie éternelle à ceux qui l'attendent. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Pourquoi Jésus revient-il? C'est pour ça. Si Jésus est venu une première fois qu'il a donné sa vie pour sauver les hommes, il est mort sur la croix. Mais s'il ne revient pas pour actualiser et implanter cette promesse dans une réalité concrète pour tous ceux qui l'attendent, à quoi sert sa première venue alors? Il est venu pour rien. Si Jésus ne revient pas une deuxième fois, donner effectivement la vie éternelle à tous ceux qui l'ont accepté par la foi, sa première venue et sa mort sur la croix n'ont aucune utilité. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Il paraîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Mes amis, si on me donne, si vous me donnez, j'imagine, je rêve un peu, ça va? J'imagine que vous me donniez un chèque de 1 million de dollars. J'ai bonne imagination, hein? Bon, mais j'ai pas dit qui c'est qui allait me le donner. Bon, alors, un chèque d'1 million de dollars. Un beau chèque signé, parfait. Je m'en vais avec mon chèque. Mais s'il est impossible pour moi d'avoir le cash, qu'est-ce que je fais avec ça? Vous me suivez? Jésus est venu, il est mort sur la croix et il a fait la promesse à tous ceux qui l'acceptent par la foi d'avoir la vie éternelle. Mais si je n'ai jamais cette vie éternelle, ça me sert à quoi? Où est le cash? Il peut me faire toutes les promesses qu'il veut. Si ces promesses ne se réalisent jamais, à quoi ça sert? Où est l'espérance chrétienne là? Si Jésus ne revient pas, tout le plan du salut, toutes les Écritures sont nulles. Tout cela, à la fois desquels nous est-il dit dans Hébreux 11, il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Ce texte de Hébreux 11 est extrêmement intéressant parce qu'il reprend toute la galerie des grands hommes et femmes de foi de l'histoire de l'Ancien Testament. Tous ceux qui, dans l'Ancien Testament, se sont manifestés comme ayant une foi remarquable. La galerie des héros de la foi. Et à la fin du chapitre, l'apôtre Paul écrit, dit « Mais ces gens-là n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. » Autrement dit, ils sont maintenant en train de dormir dans la mort. Ils n'ont pas encore reçu la promesse de la vie éternelle. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont pas reçu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Dieu a bien fait les choses. Nous ne sommes pas sauvés à la queue leu-leu. Ceux que Dieu va sauver, il les sauve comme ses enfants, comme une famille ensemble. Sinon, ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce que celui-là est au paradis depuis des milliers d'années et puis nous, on continue là, à trimer sur la terre? Ça ne marche pas. Et comment est-ce que quelqu'un pourrait être au paradis maintenant en voyant sur la terre ses amis, sa famille, dans une souffrance épouvantable? Nous avons dans nos pays la grâce de ne pas vivre les souffrances que des hommes et des femmes vivent de l'autre côté de la terre. Afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Dans sa grâce, Dieu a fait les choses en sorte que tous ceux qui seront sauvés au nom de Jésus le seront tous en même temps. C'est pour ça qu'il revient. Si nous sommes sauvés à la queue leu-leu, à quoi sert le retour de Jésus? Suffit d'attendre de mourir à ce moment-là pour aller au ciel? Jésus n'a pas besoin de revenir. Si Jésus revient, c'est précisément parce que dans son plan, nous sommes tous sauvés ensemble. Deuxièmement, Jésus revient pour faire justice. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Et c'est ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure en disant, certaines personnes pensent que le bon Dieu, il est tellement bon, il va sauver tout le monde, va. Peut pas laisser des gens mourir, le bon Dieu. Les Écritures sont claires. Alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Et ce que nous faisons, ce que nous vivons, est en réalité le reflet de cette foi que nous avons en lui. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je ne voudrais choquer personne, mais je peux vous dire que je me réjouis de ce que Dieu mette un terme au mal, à la souffrance et à l'injustice dans le monde. Je ne crois pas que l'humain peut résoudre le problème. Seul Dieu peut le faire. Et je me réjouis de ce que Dieu arrête ça. Quand le mal se perpétue, quand le mal continue, quand l'injustice et la perversion progressent, on voudrait crier, Seigneur, quand est-ce que tu vas mettre fin à ça? Et ceux qui ont ce cri vers Dieu sont ceux que Dieu a déjà transformés, chez qui Dieu a déjà fait une œuvre de transformation pour les rendre semblables à lui et à sa justice. Troisièmement, Jésus revient pour rétablir un monde sans péché. Jésus revient pour établir un monde sans péché où le mal a disparu. Repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Jésus, nous dit le texte, est remonté au ciel. Jusque quand? Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Nous sommes en réalité en train de vivre une grande parenthèse. La parenthèse durant laquelle l'humanité a vécu l'expérience du mal et du péché, et de la mort et de la souffrance. Le plan de Dieu dans le jardin d'Éden n'était pas ainsi. Mais Dieu n'a pas voulu que l'humanité se perde et soit détruite. C'est la raison pour laquelle il parle de nous comme étant ses enfants. Et l'on comprend à ce moment-là, quoi que fassent nos enfants, ils restent nos enfants. La mère d'un meurtrier, elle aimera toujours son fils et prendra sa défense, quoi qu'il ait fait. De la même manière, Dieu essaie de nous faire comprendre qu'il nous considère comme ses enfants et que par conséquent, le plan originel qu'il avait, il veut tout faire pour le réinstaurer pour nous à la fin. Nous passons une grande parenthèse. Le plan que Dieu a mis, le plan de sauvetage qu'il a révélé dans la Sainte Parole, sert pour nous à traverser cette parenthèse. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. La demeure de ceux qui seront sauvés sera la terre. Après être parti au ciel, Dieu veut ramener sur la terre, purifier, recréer, à l'image du jardin d'Éden, tous ceux qui seront sauvés par Jésus. Dieu veut revenir à la case départ. Dieu veut effacer cette expérience épouvantable de la mort, du mal, de la souffrance et du péché. Et veut nous permettre de vivre ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire de vivre comme lui. Maintenant, je suis inquiet parce que la parole de Dieu m'avertit et me dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et l'on entend aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui ont cette attitude-là, qui disent Seigneur, Seigneur, moi j'ai la foi, moi je suis sauvé. Alléluia, je suis sauvé. Tu crois? Parfait. T'es dans le bon train. Cette idée de une fois sauvé, toujours sauvé. J'ai acheté mon ticket, je suis sauvé, je peux faire ce que je veux et tout va bien. Mais je suis inquiet parce que ce texte est très fort. Non, c'est pas celui-là. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous, ceux qui font la volonté de mon Père. Le texte continue en disant « Mais Seigneur, c'est dans Matthieu chapitre 7, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? » Au nom de Jésus. Et Jésus s'adresse à ces gens et leur dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Et ce texte-là de l'évangile de Matthieu est particulièrement interpellant parce que il nous montre que ça ne suffit pas aujourd'hui d'être un chrétien de nom. Il y a même des gens, nous dit Jésus, qui seront capables de faire des miracles, soi-disant, au nom de Jésus. Il y a même des gens qui vont être capables de chasser des démons, soi-disant, au nom de Jésus. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Il ne dit pas, je ne vous connais pas. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ce qui veut dire que quand il faisait ces soi-disant miracles en son nom, Jésus n'avait rien à faire là-dedans déjà à ce moment-là. C'est dire à quel point il est essentiel de ne pas avoir un christianisme de superficialité, un christianisme de mots ou de traditions. Qui peut-être en apparence, avoir certains pouvoirs, mais qui n'est pas le christianisme biblique de Jésus. On disait tout à l'heure ce texte où Jésus attirait l'attention de ses contemporains en disant « À la fin, soyez prudents, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux Christs. Il y en a aujourd'hui. » Jésus essaie de faire comprendre déjà aux gens de son époque que cette espèce d'orgueil spirituel qui croit que de toute façon on est sauvé parce que on croit dans quelque chose, Jésus fait comprendre que ça ne vaut rien. Si nous n'avons pas avec le Christ de la Bible cette relation personnelle de foi qui lui permet de nous sauver. Et je ne voudrais pas être de ceux, au moment où Jésus revient, qui disent au Seigneur, « Mais Seigneur, j'ai fait plein de choses pour toi, j'ai donné ma vie pour toi, j'ai fait plein de choses en ton nom. » Et que le Seigneur me dise, « Je ne te connais pas et je ne t'ai jamais connu. Ce n'est pas mes œuvres que tu faisais, c'est les tiennes. » Cette interpellation est donc particulièrement solennelle, elle est déjà dans l'Ancien Testament. Où il est dit ici, la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. Dans la Bible, la notion de moisson est souvent utilisée pour comparer ce que Jésus vient faire à la fin des temps lorsqu'il rassemble ses sauvés pour les emmener au ciel. Cette image est déjà dans l'Ancien Testament, et elle est très bien comprise. La moisson est passée. L'été est fini, nous ne sommes pas sauvés. Et Dieu continue en disant, je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Le fait que des hommes et des femmes et des jeunes et des enfants n'auront pas voulu recevoir le salut par la foi en Jésus-Christ n'est pas une bonne nouvelle pour Dieu. C'est la même chose que pour un père ou une mère de perdre ses enfants. Ésaïe 25, en plein Ancien Testament, reprend cette perspective glorieuse du retour de Jésus. En ce jour-là, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu. Nous l'avons attendu. Il nous sauvera. C'est ici l'Éternel, nous l'avons attendu. Égayons-nous et réjouissons-nous de sa délivrance. » Il en est parmi toutes ces nations qui se lamentent quand Jésus revient, il en est un bon nombre qui parlent de cette manière-là, qui se réjouissent du retour de Jésus, qui voient venir le retour de Jésus comme une véritable délivrance. Et c'est ainsi que la Bible le présente. Alors, la question se pose finalement, le christianisme sert à quoi? Il sert à comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Et je comprends que le christianisme est en train de me dire que nous sommes à la veille du retour de Jésus, les signes sont évidents. Et je me dis, mais enfin, suis-je prêt? Suis-je prêt? Nous sommes sauvés individuellement, nous l'avons vu dans les passages tout à l'heure. Suis-je prêt pour le retour de Jésus? Dans l'épître de Jacques, il nous a dit, vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ça demande de notre part un attachement à cette priorité-là, parmi les autres. Et maintenant, petits-enfants, demeurez en lui, il est question de Jésus, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. Le retour de Jésus, c'est quelque chose, je crois, qui se prépare maintenant, jour après jour. Lorsque nous attendons de la visite, on ne se prépare pas au moment où elles arrivent. On se prépare avant. Et je crois justement que cette proclamation de l'Évangile dans le monde dont nous parlions tout à l'heure est destinée à amener les hommes et les femmes d'aujourd'hui à prendre conscience qu'il y a devant nous une priorité des priorités parmi toutes celles qui nous envahissent et qui s'imposent à nous par la nécessité du quotidien. Mais qu'est-ce que cette priorité des priorités est la préparation au retour de Jésus. Comment est-ce que je me prépare à rencontrer quelqu'un que je n'ai jamais vu? Comment est-ce que je peux me réjouir du retour du Christ que je n'ai jamais vu? Je crois qu'il y a dans sa parole le moyen de rencontrer et d'apprendre à connaître celui qui revient. Lorsque nous lui parlons dans la prière, lorsque nous apprenons à le connaître dans sa parole, lorsque nous développons avec lui cette intimité qu'on peut développer par une vie chrétienne, engagée, réelle. On apprend à connaître celui qui revient et on se réjouit de le voir venir. Parce que l'on sait que sa venue est une délivrance. Ainsi, j'ai été trop vite. Cette dernière parole de l'Apocalypse, je l'aime beaucoup et je suis très encouragé de voir que tout le programme que j'appelle le mode d'emploi finalement dans les Écritures se termine avec cette perspective d'apothéose. Ce sont les derniers mots de l'Apocalypse. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. À quoi sert le christianisme? À nous permettre de vivre ici-bas une vie bien plus heureuse que si nous ne le connaissions pas. Mais le christianisme nous apprend aussi à nous préparer au retour de Jésus. Et c'est à ça aussi que je vous invite. Merci.